Bonjour, et bien nous nous retrouvons pour l'émission Les mots de la foi. Et dans cette émission, nous poursuivons la réflexion sur la personnalité de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons aborder justement, dans cette connaissance que nous avons de Jésus par l'Évangile, comment Jésus répond aux questions qu'on lui pose, des questions qui sont des questions sincères, des questions pièges, des questions reproches parfois. Comment ce sont les paraboles qui donnent les réponses et ce que cela révèle de Jésus. Alors, il y a d'abord les questions posées, et ce qui est intéressant, c'est que la première question posée à laquelle il est fait allusion dans ce livre de Bernard Sesbué, je rappelle aux auditeurs que nous utilisons intégralement le livre de Bernard Sesbué, que je vous recommande, « L'homme merveille de Dieu ». Eh bien là, c'est la question posée par Marie à son fils.
Oui, c'est la première parole de Jésus dans l'Évangile, c'est la réponse à sa question. Et la question c'est...
Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ?
Oui.
Il s'agit de Marie.
De Marie.
Vous savez, après l'épisode, au temple.
Alors Jésus répond, mais pourquoi me cherchiez-vous ? Pour lui, c'est une évidence qu'il devait rester au temple. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?
Je pense que là, c'est quand même assez troublant. C'est ce que rapporte Père Sesbué. Il est en décalage complet avec eux. Avec eux, c'est-à-dire avec ses parents, avec Joseph et Marie.
Mais il ajoute qu'il est important que cette première parole de Jésus concerne sa relation avec son Père divin.
Parce qu'en fait, c'est ce qui est en jeu dans tout l'Évangile.
Oui.
Comment Jésus nous révèle le Père. Ça, c'est une question. Et c'est une question qui ne renvoie pas au nôtre, encore que l'identité de Jésus, ça peut nous interroger aussi. Et puis, il y a beaucoup de questions des malades.
Oui, des malades qui demandent leur guérison. Et quelquefois, ils posent la question en disant qu'il a foi dans le pouvoir de Jésus. Si tu le veux, tu peux me purifier. Dans Luc, le centurion qui demande la guérison de son esclave n'est pas digne que Jésus entre sous son toit. Et Jésus admire la foi de celui qui lui
pose... demandeur. Y compris d'ailleurs de la syrophénicienne qui est pourtant rebutée, hein, il la renvoie.
Oui.
Et puis, finalement, elle a elle aussi la foi. Et les petits chiens, au moins, peuvent manger les miettes de la table des enfants. Voilà. Et Jésus accorde aussi la guérison. Donc ça, ce sont les questions intéressées, si j'ose dire, et en même temps, qui montrent la foi de ceux qui demandent cette guérison. Et puis, il y a la question sincère.
Oui.
Celle de Jean-Baptiste.
Celle de Jean-Baptiste qui se pose des questions pour savoir si Jésus est vraiment celui qui doit venir. Est-ce que tu es celui qui doit venir ou est-ce que nous devons en attendre un autre ? Et c'est toujours la question de l'identité de Jésus qui est posée.
Avec aussi la réponse par le biais de l'Ancien Testament. Ça aussi, c'est une constante dans l'Évangile. Et souvent, on opposait l'Ancien et le Nouveau Testament. En fait, on perçoit que l'Évangile sans l'Ancien Testament, ça n'a pas toujours de sens.
Oui, parce que ici, par exemple, pour répondre à Jean-Baptiste, Jésus cite des paroles d'Isaïe. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.
Alors, il y a une deuxième série de questions. Ce sont les questions pièges ou les questions reproches. Alors, les questions pièges, parce que déjà dans l'Évangile, on note pour lui tendre un piège. Une question pour lui tendre un piège.
Alors
ces questions pièges.
C'est souvent les pharisiens qui interroge Jésus, et par exemple Matthieu nous dit, il l'interroge sur l'impôt à César afin de lui tendre un piège. Un autre, un légiste, toujours chez Matthieu, lui pose la question, quel est le plus grand commandement pour lui tendre un piège.
Ce qui veut dire que le dialogue de Jésus avec les contemporains n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et l'exemple, c'est la question concernant la femme adultère. Faut-il la lapider ? Donc, voilà l'exemple d'une question piège. Et Jésus s'en sort, ne tombe pas dans le piège.
Non, il arrive à se sortir du piège, soit en opposant le silence, ou en posant à son tour une question piège. Quand on lui demande par quelle autorité il agit, il oppose une question sur le baptême de Jean le Baptiste. Alors, c'est les questionneurs qui vont se trouver empêtrés dans leurs contradictions.
Oui, alors par exemple, pour l'impôt à payer à César, je dis, mais qu'est-ce que vous avez comme monnaie dans votre poche ? Et puisque c'est une effigie de l'empereur païen, eh bien, nous sommes dans un régime politique romain, donc jouons le jeu. Et pour la femme adultère, je trouve, là, ça me plaisait beaucoup, cette séquence.
Oui, parce
que celui qui est sans péché lui jette la première pierre.
Et puis à ce moment-là, Jésus semble se désintéresser, il griffonne sur le sol quelque chose, il ne veut pas voir ce que font les demandeurs, et puis ils sont bien obligés, les uns après les autres, en commençant par les plus âgés, dit le texte, de s'en aller.
Oui, et d'ailleurs, le père Cesbois a une explication gentille pour eux. C'est les plus âgés, c'est-à-dire ceux-là qui devaient donner l'exemple. Et oui. Moi, quelquefois, je me disais, comme ils sont le plus vieux, ils ont eu plus le temps de faire de péché. Enfin bon, voilà. Bref, il déplace le problème. Et puis alors, il y a les questions reproches. Les questions reproches, eh bien voilà, comment fonctionnent tes disciples? Eh bien, nous allons reprendre les questions reproches après la pause.
Qui donc es-tu, Jésus de Nazareth?
Qui donc es-tu? Qui donc es-tu?
Envoyé d'auprès du Père, sur nos sentiers, tu nous rejoins.
Qui donc es-tu pour nous? Qui donc es-tu?
Tu te révèles à Simon Pierre, l'Esprit lui dit ton nom divin.
Questions sont les questions reproches. Et il y a notamment les disciples qui froissent le blé un jour de sabbat.
Oui, et souvent ces questions reproches portent justement sur l'observance ou la non-observance de la loi et en particulier du sabbat. Et Jésus élargit la question, il montre la hiérarchie des valeurs, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et même quand il guérit des gens le jour du sabbat, c'est encore plus grave. Donc il désobéit à la loi et il est accusé de cette désobéissance.
Mais il se montre le maître de la loi. Et puis souvent, ses réponses interviennent par des paraboles. Donc, qu'est-ce que ces paraboles comme réponse? Alors, on a un légiste qui demande quel est le plus grand commandement. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus y ajoute un second commandement.
Oui. Aussi important que le premier. Alors, chez Marc, le dialogue s'étoffe. Le scribe répète le commandement après Jésus, il est d'accord avec lui, et Jésus le félicite. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Chez Luc, la question s'ouvre davantage. Que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle? Et Jésus le renvoie à la loi. Et le légiste, voulant montrer sa justice, repart sur une question. On est dans un dialogue de type un peu rabbinique, de discussion autour de la loi, comment interpréter la loi? Alors, qui est mon prochain? Mais c'est plus Jésus qui est mis à l'épreuve, c'est le légiste qui cherche à avoir son opinion sur un point controversé. Donc, Jésus, pour pouvoir s'en sortir, utilise la parabole du bon samaritain.
Et c'est vrai que cela nous livre un des très beaux textes de l'Évangile. Et puis là, il y a aussi le reproche de manger avec les pécheurs. Alors c'est vrai que souvent on fait à Jésus ce reproche de manger avec les pécheurs, d'être indulgent avec eux, d'accepter la promiscuité avec le péché.
Et alors, à ce moment-là, il y a plusieurs paraboles qui montrent l'initiative de Dieu à la recherche des pécheurs. La brebis, la pièce d'argent perdue ou retrouvée, qui cause une grande joie dans le royaume de Dieu. Et puis, la parabole du fils prodigue, qui est encore plus facile à comprendre.
Et qui ne conclut pas, on ne sait pas ce qui va se passer pour l'aîné.
Oui.
Est-ce que... Mais en tout cas, là aussi c'est quelque chose d'intéressant, c'est que souvent, il n'y a pas de conclusion évidente, ce qui veut dire que chacun prend le chemin de l'Évangile et chacun peut répondre à sa manière. C'est aussi peut-être la délicatesse de Jésus qui ne nous impose pas, par un texte trop strict, une loi à laquelle on ne pourrait que obéir, ou désobéir d'ailleurs. Alors, le troisième point, c'est qu'est-ce que révèlent à la fois ces questions, leurs réponses, les paraboles, de la personne de Jésus ?
Alors, il y a un premier point, c'est que Jésus dialogue avec tout le monde.
Oui, c'est vrai, on l'a vu avec Zachée, on le voit avec un percepteur d'impôts, on le voit avec une femme adultère, on le voit avec des Samaritains, des officiers romains, enfin, bon.
C'est quelqu'un de son temps qui est de plein pied avec ceux qu'il rencontre, il est de leur monde, il fait référence à la vie quotidienne des gens.
Le deuxième point que cela révèle, c'est aussi la référence toujours à l'Ancien Testament. Jésus connaît bien les Écritures.
Oui, il trouve toujours la parole qui va être capable de confondre son contradicteur. Il parle de David pour justifier qu'on peut ne
pas... On peut froisser des épis et manger le jour du sabbat. Oui. Et que aussi, il y a à prendre l'Ancien Testament, non pas au strict sens de la loi, mais aller plus loin. Et peut-être c'est aussi là quelque chose que Jésus nous enseigne. Ne pas en rester toujours au strict de la loi, mais aller plus loin. Et alors, Père Sesboué nous dit que ses réponses sont particulièrement intelligentes. Bon.
Ben oui. Il ne se laisse jamais enfermer dans les dilemmes des questions pièges. Il devient très vite le maître du débat.
Et puis aussi, il pratique l'humour, nous dit-il. Alors évidemment, le chameau qui doit passer par le chat d'une aiguille, c'est assez humoristique. La poutre qui est dans l'œil, le je n'ai pas de mari. Puis c'est vrai aussi que l'histoire de la femme aux sept maris, on a effectivement des séquences ironiques. Et puis, bon, les gamins sur la place, bref. Alors la question aussi posée par le Père Sesboué, c'est « Jésus est-il sans péché dans ce dialogue ?» Là aussi, c'est intéressant de poser cette question.
Oui, alors quelquefois des réactions de Jésus peuvent nous surprendre ou nous choquer, mais c'est difficile. Alors le théologien protestant Paul Tillich a montré qu'il était difficile de se montrer sans péché dans un monde et un réseau de communication profondément marqué par le péché, même au temps de Jésus.
Même au temps de Jésus, même à notre époque, c'est toujours la même chose. Mais il y a, justement, nous dit-il, des saintes colères. Les saintes colères, notamment, Jésus se met en colère contre les vendeurs du temple. Bon, donc celui qui est doux et humble de cœur, sait aussi se mettre en colère face à des situations qui sont révoltantes. Mais il pose la question, qui de vous me convaincra de péché ? Et en fait... Il est sans péché, c'est le mot de la fin. Bonne semaine à tous, au revoir.